nous allons vous parler du darwinisme, en posant la question de savoir si le darwinisme est une impasse, avec donc quatre invités sur cette table ronde. Donc Walter John Williams, qui est immédiatement à ma gauche, qui est l'écrivain de science-fiction américain bien connu, de Câblé jusqu'à Valeurs de Monde, sans entrer trop dans les détails. Pierre Bordage, qu'on ne présente plus, qui a écrit un ou deux petits romans de science-fiction, on va dire. David Wingrove, qui publie une énorme machine de science-fiction à la Talente, Zongo, qui mouline un petit peu l'humanité à la fin du 22e siècle. Et Hervé Thielman, qui s'est joint à nous, qui est généticien spécialisé dans les plantes, et qui m'a dit il y a un instant qu'il allait venir faire le scientifique. Ça tombe bien. Ça tombe bien, puisqu'on va lui poser la première question. Peut-être dire un petit mot rapidement, un petit bilan succinct du darwinisme en posant la fameuse question que peut-on dire aujourd'hui du darwinisme et surtout, est-ce une impasse ou pas?
Alors, ma réponse, c'est bien sûr que ce n'est pas une impasse. C'est Darwin, c'est quand même un géant de la conception de l'évolution des espèces depuis le début de la vie. Donc, c'est quelqu'un qui a fait des choses extraordinaire dans sa conception, dans sa façon d'observer le monde et de l'expliquer. Et puis après Darwin, il y a eu des généticiens qui ont mis un peu d'explication moléculaire sur ce qu'avait imaginé Darwin. Et c'est encore aujourd'hui complètement indispensable à la compréhension de la biologie et de l'évolution des êtres vivants aujourd'hui. Donc pour moi, c'est certainement pas une impasse, c'est tout le contraire. C'est une grande avenue qui s'ouvre pour la compréhension du monde.
Encore beaucoup de choses à creuser, donc. L'intérêt de cette table ronde ce soir, c'est de pouvoir poser la question maintenant aux écrivains de science-fiction qui sont réunis ici et de voir, par rapport à leur sensibilité, ce qu'ils font ou pas du darwinisme dans leurs œuvres. Donc je vais leur poser la question. Est-ce que le darwinisme est une source d'inspiration pour vous? Est-ce que les théories de Darwin, vous intéressent beaucoup aujourd'hui, sont une source d'inspiration? Est-ce que vous les utilisez de quelque manière que ce soit? Ou à l'inverse, est-ce que vous vous en écartez? Est-ce que vous les rejetez? Quelqu'un veut prendre la parole? Walter?
Oui, moi j'ai utilisé des principes darwiniens dans mon travail. Il y a quelques années, j'ai écrit une histoire qui s'appelait « Élégie pour des anges et pour des chiens », qui sera disponible en France bientôt. Et là, en arrière-plan, il y avait une guerre interplanétaire où il y avait une espèce de guerrier humain avait été créé exprès avec la technologie génétique. Donc, ces gens étaient créés pour être des soldats féroces. Mais la guerre a pris fin et ces gens-là étaient obsolètes. Donc, c'est une façon d'utiliser le darwinisme. Même si vous supposez que les règles du jeu ont changé, que l'humanité maintenant contrôle sa propre évolution avec la nanotechnologie et tout ça, il y a toujours quand même le principe de la sélection naturelle qui va déterminer si oui ou non les mutations seront un succès ou pas. Je peux dire quelque chose? Je suis d'accord. Je suis d'accord. Je pense que tout le domaine, le champ, c'est vraiment cette avenue qui s'ouvre et nous ne comprenons pas forcément à quel point nos vies changeront dans les siècles à venir avec cela. J'utilise la génétique, j'utilise l'évolution, j'utilise ces choses-là dans mon travail, mais dans Chungguo, mes romans. Là, les Chinois, ils sont venus et ils ont bloqué l'utilisation de science de façon radicale. Donc, ce que vous avez, c'est des gens qui jouent avec la génétique. C'est pour amuser les riches, en fait, plutôt que pour le développement de l'espèce. J'aimerais juste lire quelque chose, parce que c'est ça, ça m'a halluciné la première fois que j'ai lu ça. Et ça vient d'un livre de Matt Ridley, qui écrit un livre qui s'appelle « Génome ». Et ça couvre globalement, en fait, les 23... Il y a 23 chapitres pour chaque aspect de ça. Alors, c'est dans les années 70, hein. Deux scientifiques ont trouvé 8 gènes homéotiques qui étaient dans le même chromosome. Des gènes qu'on appelait des gènes OX. Il n'y a rien de bizarre là-dedans. Mais ce qui était vraiment bizarre, c'est que chacun de ces gènes touchait un morceau différent de la mouche et qui était aligné dans le même ordre de la partie de la mouche qui était affectée. Le premier gène, c'était pour la bouche. Deuxième pour le visage. Troisième pour le haut de la tête. Quatrième pour le cou. Cinquième pour le thorax, sixième pour la première partie de l'abdomen, sept dernière partie de l'abdomen et la huitième partie pour différentes parties de l'abdomen. Donc ce n'était pas tout simplement que les premiers gènes définissaient le côté tête de la mouche et les derniers gènes c'était pour la fin, mais c'est que tout était dans l'ordre, dans le chromosome, sans exception. Pour apprécier comment c'était bizarre, il faut savoir comment l'ordre des gènes est aléatoire. Un autre petit bout. Et il y avait deux, ça voulait dire deux choses. Premièrement, d'un point de vue évolutionnaire, et après, c'était autre. Donc, premièrement, nous venons d'un ancêtre commun avec les mouches, qui définissait l'embryon il y a plus de 530 millions d'années. Et le mécanisme était tellement bon que même que toutes les créatures depuis ont gardé ça. Et il y a autre chose, comme les oursins, par exemple, utilisent les mêmes clusters, les mêmes nœuds de gènes. Bon, on pourrait dire que l'idée du gène de Hox, en fait, ça prouve l'existence de Dieu. Moi, je pense que c'est l'inverse, parce que il y a tellement de génétique de merde dans notre corps, aucun Dieu qui vaut le coup nous aurait conçu comme ça. Donc, les gènes Hox, en fait, c'est une révélation de ce qu'on peut faire avec la génétique. Et une fois qu'on va maîtriser ça, là, on va voir des merveilles.
Vous avez tellement quelque chose à dire.
I'd like to see a scientist's view on that one.
Non, voir le point de vue d'un scientifique.
Je veux simplement dire que Darwin avait raison et que l'évolution, c'est une réalité que plus personne ne peut contester aujourd'hui. Donc c'est un peu ça. Moi, j'avais peur dans ce débat, quand j'avais vu qu'il y avait éventuellement un prêtre qui allait nous rejoindre, qu'on allait commencer à parler de la conception intelligente et des choses comme ça. Donc c'est très bien que ça ne soit pas le cas, parce que à mon avis, ce n'est pas... Bon, moi, tu m'expliqueras, Pierre, tout à l'heure, mais à mon avis, c'est quelque chose qui ne se discute pas. L'évolution, c'est une réalité objective, c'est démontré, et tous les jours, on le démontre. Et les gènes Hox, c'est un exemple de plus, c'est un excellent exemple de ce que c'est que l'évolution. Autrement dit, les mouches, c'est nos cousins, hein. Faut quand même pas oublier ça.
Oui.
Voilà. Oui. Bon, après, on pourra parler de Darwin aujourd'hui, parce qu'il y a beaucoup de choses qui vont pas tout à fait dans le sens de Darwin, et plutôt dans le sens de Lamarck, mais ça n'empêche pas l'évolution d'exister, hein.
Oui, on va peut-être écouter Walter, mais à moins que Pierre ait quelque chose à dire, qu'on entende un petit peu Pierre Bordage d'abord, et puis on reviendra sur
Alors,
Walter.
Alors, il faut toujours un mouton noir dans une table ronde, donc je suis le mouton noir, et je pense que le darwinisme est une impasse. Voilà. Bon, suivant. Je pense que le darwinisme porte en lui les germes de son propre échec, et le germe de la fin de l'humanité, tout simplement. Il se trouve que par un hasard extraordinaire, j'ai assisté l'autre jour à une conférence sur Darwin avec trois spécialistes de Darwin qui disaient finalement il n'y a même pas de déterminisme, il y a juste du hasard et de la contingence, c'est-à-dire selon Darwin, c'est-à-dire que voilà, les espèces naissent et c'est un grand hasard qui procède à leur évolution, à la contingence, c'est-à-dire tel animal se transforme de telle façon pour échapper à son prédateur. Et moi, j'ai posé la question sur le déterminisme. Elle me dit non, on le sait après. On ne peut pas déterminer comment vont évoluer les choses, mais on peut observer comment évoluent les choses. Ce qui veut dire que la science répond au comment. Comment les choses se sont passées. En revanche, elle ne répond jamais au pourquoi. Et ce qui m'intéresse, moi, en tant qu'auteur, c'est d'aller chercher le pourquoi et non pas rester dans le comment. Parce que le comment, c'est juste de l'observation. D'accord, ça s'est passé comme ça et tout. Maintenant, il y a peut-être eu des raisons. Alors, je ne parle pas d'un dessin intelligent. Je ne suis pas créationniste au sens américain du terme. La Terre a été créée en 4072 avant Jésus-Christ, à 15h12 exactement. Et voilà, toutes les bestioles ont été mises à ce moment-là. Mais ce qui m'intéresse, moi, c'est l'interaction entre ce qui nous sert de conscience. parce que je considère que le cerveau est une interface plutôt qu'un organe qui gère et génère tout. C'est plutôt pour moi une interface, et ce qui m'intéresse, c'est de chercher de l'autre côté de l'interface s'il y a vraiment des interactions différentes que celles qu'on peut observer. Donc c'est plus, ma recherche en tant qu'auteur, c'est plus ça que d'aller dire oui, vous avez raison, les scientifiques, effectivement, on observe que bon, ça ne me suffit pas. La pensée matérialiste ne me suffit pas, ne m'intéresse pas même. Donc je cherche plutôt autre chose qui est, je prends les mots avec extrêmement de guillemets, qui est plutôt de la pensée de type spiritualiste. C'est-à-dire que moi, ce qui m'intéresse, c'est de voir... En gros, c'est la question finale à laquelle aucun scientifique n'a pu répondre, c'est qui a commencé. On sait que la connaissance scientifique s'arrête au mur de Planck, et après, on ne sait plus. Si la vie est une succession de causes et effets, ce qui semble être l'argument de la science, la cause s'arrête à un moment. Il n'y a plus de cause. Et là, ça me pose vraiment des grands problèmes métaphysiques vertigineux, parce que je me dis, mais qu'est-ce qui s'est passé? Pourquoi il y aurait eu cette petite graine qui aurait explosé, enfin, ce petit particule de rien du tout qui aurait explosé, qui aurait donné tout ça? D'où ça sort, tout ça? Moi, je ne suis pas satisfait.
Je crois qu'il y a deux problèmes. Il y a l'origine de la vie et l'origine de l'univers. Et je ne sais pas si c'est la même question. Alors peut-être dans une vision spiritualiste...
Si la vie est venue de la création de l'univers, parce que je crois qu'au début c'est juste une soupe primordiale avec tout un tas de trucs dedans,
oui.
Et après ça fait émerger la vie. Donc on est bien dans une chaîne de cause à effet, et à un moment, il n'y a plus de cause. Et moi je voudrais savoir, est-ce que la science est capable de me répondre à moi, qui cherche désespérément dans mon chemin tout noir et tout ça, est-ce qu'il y a une cause? Voilà. Parce que si la chaîne des causes et effets s'arrête, ben alors je ne peux pas être satisfait.
Oui, mais bon, là, on n'est plus dans le darwinisme. Hein. On est dans je ne sais pas comment ça s'appelle, l'astrophysique. Là, on parle de l'origine de l'univers. Parce qu'à partir du moment où... je ne sais pas ce qui s'est passé avant le Big Bang. En tout cas, après, on peut imaginer très bien la chaîne des événements. Et on peut savoir que ce qui s'est passé sur la Terre et comment a émergé la vie, ça c'est facile de...
Comment, voilà. Ça, la réponse, c'est le comment. C'est l'observation. Alors, c'est vraiment le rôle de la science d'avoir ce rôle d'observation, de dire voilà comment ça s'est passé. Mais il y a probablement aussi... on ne peut pas s'arrêter à ce système de pensée qui dit le comment. Je pense que c'est intéressant aussi d'essayer d'aller comprendre le pourquoi. Enfin...
Non, mais ça, je comprends tout à fait, mais c'est plus une question scientifique à ce moment-là.
C'est pour ça que je dis que ma pensée n'est pas matérialiste.
Mais Darwin n'y est pour rien là-dedans. Je veux dire, c'est pas la peine de le traiter d'impasse. C'est pas de sa faute. Je veux dire, il y est absolument pour rien. Il nous donne des clés explicatives de l'évolution. Et en ça, il est quand même en avance. Enfin, il nous aide à progresser. Maintenant, la science d'aujourd'hui répond aux questions de l'évolution et remet en cause quelque part un petit peu Darwin. Ça peut t'aider parce qu'il y a peut-être une dimension spirituelle que tu peux trouver dedans. Bon, hors les gènes qu'on connaît et la façon dont ils s'expriment, il y a aussi ce qu'on appelle l'épigénétique. Je ne sais pas si vous en avez entendu parler. C'est tout ce qu'il y a autour du gène, c'est-à-dire en dehors de l'ADN, tout ce qui se transmet par le fait que des gènes vont être éteints à un moment donné, vont être modifiés, etc. Bon, tout le monde sait que dans chacune de ces cellules, on a toute l'information pour faire tout ce qu'on est, mais que dans chacune des cellules ne s'exprime qu'une partie de cette information, forcément. On a 2 mètres d'ADN qui sont compactés dans un micromètre. Donc, forcément, il faut que l'information soit accessible à un moment donné et pas toute l'information. Bon, pour que cette information soit éteinte, une grande partie de cette information soit éteinte, il faut que l'ADN soit méthylé, qu'il soit condensé ou que les histones soient elles-mêmes modifiées pour que l'ADN ne s'exprime plus. Et cette façon de s'exprimer ou pas de l'ADN qui ne touche pas à la chaîne de nucléotides, c'est-à-dire qu'ils ne changent pas le message, mais qu'ils changent la façon de s'exprimer, ça peut s'hériter. Et ça peut être influencé par le milieu ou par l'environnement. Ça, c'est quelques dernières années, on commence à comprendre un certain nombre de choses comme ça. Autrement dit, le père Lamarck renaît un peu de ses cendres. Bon, on ne va pas aller jusqu'à ressortir les 5 os de sa tombe, mais il n'avait pas forcément tort, surtout. Donc, si vous regardez un peu ce qui se passe dans les journaux, vous verrez ce que c'est que l'épigénétique. Et donc, c'est toute cette information qui est transmise d'une génération à la suivante, en général par des mitoses, c'est-à-dire à l'intérieur du corps, la différenciation génétique des différentes cellules, se fait par des modes d'extinction ou de modification de l'ADN qui l'empêchent qu'il soit traduit, qu'il soit exprimé. Et ça peut, dans une certaine mesure, s'hériter. Bon, je pourrais donner des exemples si vous voulez, mais je vais vous fatiguer un peu avec ma science.
On va peut-être passer la parole à Walter qui n'est pas intervenu finalement. Vous aviez peut-être quelque chose à dire tout à l'heure pendant les interventions de Pierre Bordaille.
Oui, mais j'ai oublié maintenant. Non, je pense que la question de pourquoi, c'est une question totalement valable. Et la question qu'il faut poser, surtout pour des auteurs de fiction. Parce que la fiction exige des raisons et des réponses. La vie réelle, non. Donc je pense que peut-être qu'il n'y a pas... Il n'y a pas d'objectif, il n'y a pas de but avant de l'avoir créé et avant de pouvoir piloter le processus. Si on arrive au point où, à travers la technologie génétique ou la nanotechnologie ou une autre combinaison, si on peut modifier, si on peut se modifier, on peut modifier notre esprit, là, à ce moment-là, on peut rajouter un aspect déterminatif à ce qui est un processus apparemment aléatoire. Mais l'aspect malheureux de tout ça, c'est que si nous avons cette liberté, ce sera mal utilisé, utilisé à mauvais escient. Et il y aura des accidents. Et cela va créer des tragédies. Mais de tous les cas, on connaîtra mieux l'objectif derrière, le but, la finalité. Et en même temps, il y aura des effets bénéfiques. Merveilleusement bénéfique, mais je suis d'accord, ça peut être mal utilisé. Toute découverte, toute invention est mal utilisée. Pour revenir à ce qu'a dit Pierre, je pense qu'il y a trois mystères. Premièrement, comment est-ce qu'on a créé la matière? Deuxièmement, comment est-ce qu'on a créé la vie? Et troisièmement, comment est-ce qu'on a créé l'intelligence? Parce que tout ça, c'est des pas géants. Et si on accepte que chacun existe, mais pourquoi? Moi, je ne sais pas exactement pourquoi nous héritons non seulement les attributs physiques de nos ancêtres, mais aussi les attributs intellectuels. Par exemple, là, c'est clair, non seulement il y a des gestes dans les familles, il y a des façons, il y a des comportements, il y a des caractères qui sont transmis, des aspects du caractère qui passent de génération à l'autre. Et ça, c'est quelque chose qu'on n'a même pas regardé encore, ces aspects de la génétique et du darwinisme. Et juste pour cette partie, la dernière chose que je dirais... Moi, non, je laisse, c'est trop compliqué.
Pour moi, il n'y a pas trois mystères, il n'y en a qu'un. C'est l'origine de l'univers. Après, je trouve que les choses s'enchaînent tout à fait logiquement. Bon, l'apparition de la vie, on peut trouver ça un peu bizarre, mais on peut très bien imaginer que dans une soupe primitive, effectivement, il peut y avoir des molécules qui commencent à s'auto-répliquer, et ça constitue en soi la vie. Après, l'émergence de l'intelligence, on le voit quand on étudie les animaux, on voit bien que l'intelligence, elle n'est pas spécifique à l'homme. Il y a d'autres types d'intelligence, des comportements complexes, et qui font qu'il y a une logique d'évolution entre les animaux dits inférieurs et nous, tels qu'on est aujourd'hui. Donc pour moi, il n'y a qu'un seul mystère, c'est l'origine de tout. Alors on peut imaginer, effectivement, c'est notre boulot aussi quand on est plus scientifique et qu'on essaye de faire l'auteur de science-fiction, on peut imaginer comment on peut imaginer l'origine de l'univers. Mais ça, c'est de l'imagination. C'est une autre histoire, quoi. Bon, puis je suis là comme scientifique, alors. Bon.
Well, much.
Là, l'évolution, beaucoup de choses dans l'évolution, c'est l'ordre de complexité. Et les premiers instants de l'univers était très simple. C'était un plasma, et c'était chaud de façon uniforme. Et avec l'expansion, ça commençait à se refroidir. Et il y avait la gravité et des forces nucléaires et des forces électriques. Et donc tout ça, ça rentrait dans le processus. Et donc ça rajoutait à la complexité. Et puis il y avait un autre niveau de complexité avec les protons, les électrons. Et après, on pouvait former de la matière qui était neutre magnétiquement. Et là, ça a permis... Le fait que la matière se rassemblait plutôt que de se repousser. la vie, c'est un autre ordre de complexité. L'intelligence encore. Et ce qui est bizarre là-dedans, ce qui est curieux, ça contredit la deuxième loi de la thermodynamique, qui dit que l'univers doit se refroidir et doit se simplifier plutôt que de se complexifier. Donc il y a peut-être une force là-dedans, une force de la nature que nous ne comprenons pas, qui pilote tout ça, qui pousse tout ça, qui motive tout ça. Oh, nous sommes une zone locale de complexité qui est en contraste avec le reste de l'univers, et où il y a une entropie plus forte.
Sur l'intelligence, effectivement, il y a des espèces intelligentes dont le comportement est intelligent, mais ces espèces n'ont pas la conscience. C'est là-dessus qu'il y a une grande différence entre les êtres humains et des comportements d'espèces. C'est-à-dire que c'est vrai que c'est une forme d'intelligence, on va chasser de telle façon, manger de telle façon, boire de telle façon, mais les seuls êtres qui aient la perception de leur place dans l'univers ou de leur individualité, ce sont seulement les êtres humains. Et ce qui m'intéresse, évidemment, après, je suis d'accord, hein, quand on observe, quand on démonte la mécanique, c'est comme si on démontait une voiture, on dit ça marche comme ça, ça marche comme ça, ça marche comme ça. Maintenant, ce qui m'intéresse, c'est d'avoir le mystère, de plonger dans le mystère de la fabrication, du fonctionnement de la voiture. Pour le reste, bon, c'est ça, on peut faire un mécano, on peut tout démonter, il n'y a aucun problème, mais ce n'est pas ça qui va répondre à mes interrogations. Donc je pense que, par bonheur, et aussi bien dans la physique quantique que dans l'origine de la vie, que l'origine des espèces et que dans l'origine de l'univers, il y a un mystère. Et c'est dans ce mystère que les auteurs que nous sommes, je pense, s'engouffrent en permanence. Et que tu es aussi en tant qu'auteur de fiction.
Oui, c'est vrai. Mais enfin bon, je suis là en tant que scientifique, alors je réponds en tant que tel. Mais je voulais aussi répondre à la question de la génétique du comportement que posait David tout à l'heure.
Je voulais poser la question, justement.
Oui, non, parce que ça c'est un truc un peu plus compliqué et qui peut aussi avoir tendance à dériver vers des choses moyennes, on va dire.
C'est peu ragoûtante.
Oui, non, mais il y a effectivement eu des expériences de génétique du comportement chez la mouche, chez la drosophile, qui est notre modèle d'étude favori. Et effectivement, on a pu débobiner, ou comme disait Pierre tout de suite, le comment du pourquoi de telle mouche va voler de telle façon, et on peut connaître les gènes qui vont inciter la mouche à voler. Par contre, chez l'être humain, quand on parle de comportement ou d'humeur ou de trucs, là, on peut pas du tout faire la différence entre l'inné et l'acquis. C'est très difficile de savoir la part de quoi et de quoi, quoi. Quels sont les gènes et quels sont les mêmes qui vont intervenir. Donc là, on n'est plus vraiment dans la génétique.
Je dois dire que Pierre, il a raison quand il pose la question de pourquoi. Je ne suis pas sûr, je ne sais pas si on va trouver le pourquoi ou même si on va pouvoir faire comme des gens limités par le temps, si on va pouvoir tout démêler, apprendre ce qu'on veut sur comment les choses ont eu lieu. On pense à des milliards d'années. Nous, on a peut-être un siècle de vie. On ne va jamais concevoir ça, on ne va jamais voir ça, percevoir ça. Je ne vois pas comment. Tout ce que nous avons, en tant qu'auteur, on doit poser des grandes questions de pourquoi. Mais en termes du monde scientifique, on ne va jamais s'y approcher.
Un jour ou l'autre ?
Oui. Oui. Et de façon importante. Ce qui m'intéresse, ce qui me fascine, c'est dans la logique des choses. Il y avait un moment dans ce monde, dans l'existence de ce monde, où la conscience ne faisait pas partie du monde. Et un instant plus tard, il y avait la conscience. Et j'aurais bien aimé être une mouche pour voir ça. Donc pour voir ce que c'était. Est-ce que c'était une tribu de nomades, de créatures nomadiques? Et tout d'un coup, il y en a un qui est devenu intelligent. Là, c'est une bonne histoire, par exemple. Pourquoi ça arriverait? Je ne sais pas. Mais ça a eu lieu parce que nous sommes intelligents maintenant. Je dois dire, j'ai regardé ça dans les Avaleurs du Monde. Et je serais content de le vendre après dans ma session de signature. Et je ne peux pas vous donner ma réponse. Pas parce que je suis faussement timide, mais parce que ça va vous gâcher l'histoire. Désolé.
Je pense que vous vouliez réagir il y a un instant.
Non, je ne me rappelle pas, mais...
Non. J'ai l'impression.
Alors, si je peux réagir, enfin, continuer mon idée obsessionnelle plutôt. ce qui est intéressant, je pense, c'est la relation subjective à l'univers. Et la science est une relation objective, c'est-à-dire démontant le mécanisme. D'accord ? À peu près.
On essaye, oui.
Ouais. Et ce qui m'intéresse, c'est la relation subjective. Pourquoi ? Parce que quand on perd la conscience, c'est-à-dire pendant le sommeil, ou bien pendant le sommeil plus long qu'est la mort, on ne perçoit plus l'univers. Donc l'univers n'existe plus pour soi. L'univers n'existe plus parce qu'on n'est pas là pour simplement le regarder, le sentir, etc. Donc c'est ça qui me passionne. C'est-à-dire que... Ça ne marche plus ? Non ?
Vous pourriez nous amener un autre casque, s'il vous plaît ?
Il y a un problème
yes,
de
yes,
casque.
Right.
C'est bon ?
C'est bon ? Okay. All gone. Yeah, right. Yeah, all right.
Excuse-nous, Pierre. Ah. Bon, j'ai peut-être chanté une chanson pendant l'interlude. En fait, il faudrait qu'on vienne avec un stock de 2-3 casques chacun quand... Quand on voit que le truc est en train de lâcher, on en prend un autre.
Donc ça s'appelle une relation subjective à l'univers. C'est-à-dire qu'on comprend. Donc voilà, c'est moi je pense que les auteurs posent la question toujours de la subjectivité, c'est-à-dire de la perception. Est-ce que l'univers serait intéressant sans la perception des gens qui vivent dedans ? Je ne vois pas trop l'intérêt. Il ne peut pas y avoir d'univers objectif.
C'est
ok, non ?
C'est bon ? Bon, ben c'est bon. Merci.
C'est bon, merci.
Excusez-nous. Il faut déconcentrer.
Donc moi, en tant qu'être humain et en tant que personne qui expérimente l'univers par mes sens, par ma conscience, pour moi, quand tout ça n'existera plus, l'univers n'existera plus. Donc c'est ça, cette question qui me fascine et m'intéresse, enfin qui m'intéresse et me fascine dans le sens. C'est voilà, quel rapport ai-je avec l'univers ? Est-ce que je participe à la vie de l'univers ou suis vraiment... C'est pour ça que je disais que le darwinisme est une impasse. C'est que si vraiment je suis ce produit du hasard pur et de la contingence, alors bon, ben je vais disparaître et quel intérêt ? J'aurais eu une perception qui se sera éteinte d'un seul coup et l'univers, je serais passé comme un souffle dans l'univers. C'est vrai que la théorie de Darwin fout la trouille quelque part parce qu'on n'a aucune incidence sur quoi que ce soit. Et je pense que nous, moi en tant qu'auteur, ce qui m'intéresse, c'est de poser la question de la perception, de la subjectivité. L'objectivité ne peut pas m'intéresser parce que c'est juste le démontage de la mécanique.
Bon, pour Darwin, il faut quand même relativiser. Hein. C'est le mode de fonctionnement de l'évolution, c'est celui-là. Maintenant, depuis que l'homme est là, lui, il a modifié considérablement toutes les données du darwinisme, puisque c'est lui qui a sélectionné les espèces végétales et animales. Et la sélection de l'homme, elle, c'est plus la même chose que quand on était des animaux. On est passé à un autre niveau de sélection, qui est une sélection, je ne sais pas par quoi, par l'argent ou par l'intelligence ou par ce que vous voulez, mais qui n'a plus rien à voir avec les conditions définies par Darwin dans l'évolution des espèces. Donc là, ce qu'on vit, nous, en tant qu'être humain, ça n'a plus rien à voir avec le darwinisme.
Ça voudrait dire que dans la théorie darwiniste, ça voudrait dire qu'une forme, et c'est la théorie de Jean-Michel Truong dans Totalement Inhumaine, ça voudrait dire qu'une autre forme d'intelligence un peu plus adaptée, un peu plus fiable que la nôtre, prendra notre place tôt ou tard.
Ça, j'en sais rien. Moi, j'ai du mal à me projeter comme ça, si tu veux.
C'est le problème de la post-humanité qui est posé.
Oui, je sais, tout le monde en parle, mais ça sera peut-être aussi des IA, ça sera peut-être ce qu'on veut, etc.
C'est le hasard et la contingence, quoi.
Voilà, non, mais bon. Ça c'est de la pure science-fiction, on est d'accord. Hein. Mais Darwin n'y est pour rien là-dedans. Et arrête de dire que c'est une impasse. Il a fait avancer la science de l'évolution dans des proportions considérables. Et il a permis de comprendre tellement de choses que c'est pas une impasse. C'est nous qui la créons, l'impasse. Hein. C'est nous qui mettons la Terre dans une impasse. C'est nous qui foutons la merde sur la Terre. C'est pas Darwin.
Oui, mais ce que je... C'est une impasse dans la mesure où, si on croit vraiment la théorie darwinienne, hasard, tout ce qu'on fait, c'est du hasard, alors. Et notre... Si. Parce que c'est une forme d'évolution hasardeuse. On s'adapte aux circonstances. et on détruit notre planète parce que c'est pour ça que je dis que c'est une impasse. C'est quelque part inscrit dans cette idée que s'il y a hasard à la cité, il y a forcément destruction, il y a fin, quoi.
Pas forcément. Et en fait, bon, faut pas oublier que la valeur sélective, c'est pas l'individu, c'est la qualité de sa descendance. C'est comme ça qu'on définit la valeur sélective quand on fait de la génétique des populations. Donc, toi, tu te poses des questions, mais Darwin, il va répondre dans ta descendance. Et qu'est-ce qu'il va retenir de ta descendance ? Et c'est pour ça que quand on parle de darwinisme au niveau de l'homme, c'est un peu absurde, parce que c'est pas du tout les mêmes conditions qu'une colonie de fourmis qui va plus ou moins s'adapter à telle écorce d'arbre ou je sais pas quoi. Tu vois, on est largement au-delà de ça. Donc Darwin, il nous explique l'évolution jusqu'à aujourd'hui, jusqu'à nous, et puis maintenant c'est à nous de nous démerder parce que Darwin, il n'y est plus. Et la sélection, elle existe, mais c'est plus du tout des valeurs sélectives que tu peux appliquer à des animaux. C'est autre chose.
Cela fait partie, en fait, de notre souci de ceci, en fait. Le fait que nous nous soucions du fait qu'il y a quelque chose de plus grand que nous qui participe à cette équation. En fait, on peut être tout simplement des porteurs de gènes, c'est tout. Il y a peut-être une étape intérimaire vers quelque chose d'autre. Ce n'est pas vraiment quelque chose de très sympa à prendre en considération, là. Mais oui, bon, ça fait partie de tout ceci et peut-être intégré dans notre rejet, en fait, un petit peu d'accepter le darwinisme. On sait, d'un point de vue scientifique, que cela conduit à quelque chose.
Si vous avez commencé à évoquer la nanotechnologie en tout début de causerie, est-ce qu'on n'est pas en passe aussi maintenant de passer une étape encore supérieure, et cette fois en contrôlant tout, entre autres avec la nanotechnologie ?
Surtout en faisant des manipulations génétiques. Là, on triche, là, hein, c'est clair.
Et je pense que la sélection naturelle est toujours valable. On peut développer des sous-variétés, oui, d'êtres humains qui seront spécialisés d'une façon ou d'une autre. Mais ce sera difficile d'augmenter l'intelligence sans redessiner l'être humain complètement. Parce que la science, en fait, et la taille de notre cerveau est déterminée par la quantité d'oxygène disponible. Et donc, il faut reconcevoir tout le système circulatoire et respiratoire complètement pour avoir plus d'oxygène pour un cerveau plus grand. Et donc, probablement, on peut aller dans ce sens, mais on peut développer, oui, d'autres spécificités telles que, par exemple, une variété aquatique d'êtres humains, d'autres êtres humains qui seront spécialisés dans certains types de travaux. Et des êtres humains qui seront spécialisés dans l'environnement et dans la vie sur d'autres mondes. Donc, mais cette sélection naturelle va continuer à décider s'il y aura des sous-variétés ou non, et si elles vont exister. Donc on peut peut-être concevoir l'être humain pour certaines tâches, mais peut-être qu'il y aura aussi un échec pour des raisons auxquelles on n'aura pas pensé. Et nos descendants seront peut-être tout à fait obsolètes, tout simplement parce que nous avons décidé que leurs capacités seront apparues trop tôt. L'autre façon de considérer ceci, c'est qu'il y a une diaspora un jour, si on sort de cette planète et que l'on va donc nous disperser dans les étoiles et que l'on va interagir avec d'autres environnements, là, c'est ce qui sera un changement important, un facteur de changement important du moins. Oui, autre point à prendre en compte aussi, c'est que l'intelligence et la conscience n'est qu'une seule étape de notre évolution et qu'on a peut-être besoin aujourd'hui, oui. Mais pour l'avenir, ce ne sera peut-être pas nécessaire. Et là, on aura peut-être développé tant d'environnements avec succès qu'on n'aura plus besoin de cette intelligence pour pouvoir survivre. En tant qu'être humain, on pense aussi en termes de décennies, siècles, millénaires peut-être. Mais ce n'est pas comme ça que fonctionne l'évolution. L'évolution fonctionne sur des millions d'années, des dizaines de millions d'années. Et vous voyez, c'est là un processus très très lent.
Et pour l'évolution telle qu'on peut la constater aujourd'hui, mais aujourd'hui dans une situation très particulière, où l'homme est effectivement le maître d'œuvre de son évolution. C'est lui qui va décider ce qui se passe, c'est pas Darwin. Et les critères de sélection, c'est lui qui les impose pour toute la planète.
Oui, mais enfin, il suffit qu'une astéroïde nous tombe dessus très très grosse et ça change considérablement les choses. Il y a forcément des accidents et des hasards, si on est en suit la théorie de Darwin. Et donc, les dinosaures ont disparu à cause probablement d'une météorite qui est tombée et qui a créé un nuage de particules et donc un refroidissement. Donc, il y a aussi des contingences géologiques, physiques, etc., qui peuvent aussi considérablement modifier la donne.
On est d'accord, mais David Wingrove rêvait d'une diaspora, je pense qu'on n'y sera jamais. Enfin, bon, moi, je ne vois pas encore 2 ou 3 générations d'humains sur une planète comme ça. Et d'ici là, on ne sera pas parti sur Mars ou sur Vénus. Donc,
bon. C'est très optimiste tout ça, je crois.
Voilà pourquoi c'est une impasse.
C'est pas la faute de Darwin.
Non, c'est pas de la faute de Darwin.
C'est la faute de l'homme. C'est la faute de l'homme du XXe siècle. C'est pas la faute de Darwin.
L'idée du hasard et de la nécessité, c'est une impasse. Enfin, à mon avis, parce que ça va forcément vers des catastrophes, enfin, des remplacements ou des supplantations, de tout ce qu'on veut. Mais essayons de réfléchir sous un autre terme. Disons, mon voisin a parlé de la conscience, d'apparition de l'intelligence puis de la conscience. Et donc ça cause la question du créationnisme, c'est celle de est-ce que c'est l'inconscience qui a précédé la création? On est d'accord, enfin, qui a précédé la matière, est-ce que c'est la conscience? Ce qui ferait de nous des êtres doués d'une conscience, donc co-créateurs de l'univers en permanence. Ça m'intéresse beaucoup, ce concept-là, c'est-à-dire est-ce que c'est nous qui, par notre conscience collective, individuelle, maintenons cet univers de façon permanente? Est-ce que... Je parlais tout à l'heure de la subjectivité, et il me semble que c'est la question qui est posée par la subjectivité. Est-ce que la matière n'existe que par le regard qu'on porte dessus? Voilà, ça m'intéresse. Si elle n'existe par elle-même, je ne vois pas trop ce que j'irais à y faire.
Non, mais je comprends très bien, mais moi je ne vois pas ce que Darwin vient faire là-dedans, franchement.
Moi non plus, mais
ni
bon,
la biologie. Hein. Là, on est parti dans la métaphysique, c'est une autre histoire.
Oui, mais je pense qu'on
creuse... Et puis c'est le débat de demain, de 13 à 14 heures.
Oui, mais on prend de l'avance.
Voilà.
Non, mais c'est pas gentil. Peut-être que David a quelque chose à dire.
Non, immediately. Vite là, comme ça, non.
Faire un geste vers le micro. Slightly
earlier, it's just that. Peu plus tôt, oui. Ce qui est bien sur la science-fiction, c'est qu'on peut écrire ces histoires. On peut avoir toutes ces notions un peu folles sur le pourquoi et d'où on vient, et on peut construire un nouvel univers. Et c'est pourquoi j'aime aussi lire et écrire de la science-fiction, parce que là, oui, vous pouvez regarder toute une série de façons de voir et d'écrire sur ces façons, mais rien ne va vous empêcher de théoriser sur tout ceci. Je pense, oui, que les théories de Darwin sont des idéaux, puisqu'elles vont au-delà, elles sont la base de la science-fiction. Elles partagent certaines affinités avec la science-fiction. Dans la sélection naturelle, il y a la survie en fait des meilleures espèces. Hein. Et ça, c'est de la vue de la science-fiction de l'univers, hein, d'une certaine façon. L'univers présente donc une série d'univers, de situations, et la science-fiction là, va nous montrer, ou essaye de montrer, quelles idées vont conduire à la survie de notre espèce dans un avenir, et ce, dans les différents environnements de l'univers, et ainsi de suite. La sélection naturelle n'est pas toujours une idée avec laquelle on est à l'aise, oui, c'est vrai. Et c'est une idée qui va contre les sentiments, hein, anti-sentimentale. Mais c'est aussi la base de bon nombre de science-fiction.
Je vais peut-être passer la parole au public, parce que je pense qu'il y a des gens qui ont envie de poser des questions, tout simplement. Donc n'hésitez pas. Oui, oh là-bas, oui, effectivement.
Il y a une sélection, là, des espèces.
Oui, dans la table ronde précédente, on parlait du néo-darwinisme, qui est aussi une notion assez, assez intéressante et qui est en fait qui est très récente, qui date du début des années 80, quasiment. et pour lequel la notion d'espèce et de société n'existe pas. La société n'existe pas, c'est juste un ensemble d'individus qui peuvent être ensuite, dont le comportement peut être ensuite déterminé, notamment le comportement politique et commercial, peut être déterminé par un certain nombre de facteurs génétiques, d'où les tentatives de contrôler ces personnes-là dès le berceau. Voilà. Donc c'est une idée qu'on retrouve un peu plus en science-fiction que le darwinisme purement scientifique, qui lui est un constat plus qu'une histoire de science-fiction.
Non, le darwinisme est une théorie et le néo-darwinisme, c'est juste son adaptation aux connaissances qu'on a en génétique au début des années 80. Donc ça n'a absolument rien à voir ni avec des considérations commerciales ou politiques. Hein. On n'est pas du tout là-dedans. Je crois que soit j'ai pas compris votre question, soit je vois pas le rapport entre Darwin et le commerce et la politique.
Pour certains, les comportements sociaux, et notamment le fait d'acheter, de voter, enfin, un certain nombre de comportements ne seraient pas déterminés non pas par l'influence du reste de la société, mais par un certain nombre de critères déjà acquis.
Ah, tu veux dire qu'il y a des gènes politiques, de conscience politique ou de,
je ne dis pas
des
que
gènes
j'adhère...
de droite, des gènes de gauche. Non, il faut arrêter là.
Je ne dis pas que j'adhère à cette idée. J'observe que c'est une idée qui s'est quand même développée depuis une vingtaine d'années, qui est quand même assez étrange.
Oui, enfin, moi j'en ai jamais entendu parler. J'avoue que je ne comprends pas. Peut-être quelqu'un peut comprendre, moi je ne comprends pas. Je suis désolé, hein, mais je ne vois pas le rapport du tout avec le néo-darwinisme. Alors, tous les comportements sociaux ne sont pas du tout des comportements qui ont le moindre rapport avec la génétique. C'est des comportements, par définition, sociaux. Donc, c'est des trucs qu'on t'apprend à l'école, que t'apprends chez ton papa-maman, que tu sais, c'est des mêmes, si vous voulez, mais c'est certainement pas des gènes qui sont derrière ça. Enfin, je comprends pas.
Merci de votre aimabilité génétique.
Je suis désolé parce que... excusez-moi.
Oui, on va prendre une autre question.
It's part of the problem. Problème en fait avec quelque chose, hein, avec ce type d'échange, le fait que l'on utilise l'évolution, hein, de façon un peu libre. L'évolution, c'est un processus bien spécifique et on essaye de dire que si une voiture a été améliorée au fil des années, c'est l'évolution. Si certaines choses au sein de nous-mêmes sont des aspects sociaux et font des changements pour le mieux, c'est considéré aussi comme de l'évolution. Mais ce n'est pas de l'évolution dans le terme classique. Dans son acception classique du terme.
On vous cède la parole.
Hi, it's a question for. Question pour Monsieur Williams. Vous définiriez-vous comme auteur cyberpunk? Quelle est votre définition du cyberpunk? Et si vous vous définissez de la sorte, diriez-vous que le darwinisme est au centre du cyberpunk? Alors, je vais essayer de lier ceci au darwinisme. Rapidement, le cyberpunk a lui-même évolué. Je pense que le cœur du cyberpunk, ce sont quelques principes simples, l'un d'entre eux étant que l'avenir ne sera pas seulement uniculturel, il y aura plusieurs cultures, sous-cultures, qui vivront ensemble dans l'avenir. La technologie sera utilisée donc différemment par toutes ces sociétés. Et que ces principes clés-là sont toujours utilisés par les auteurs de cyberpunk aujourd'hui. Bon, maintenant, si on revient à Darwin.
Questions? La fin de la question, c'était le darwinisme est-il au centre du cyberpunk, je crois. Une autre question.
Perhaps in a metaphorical way, but I, you know, de façon métaphorique, je ne
je ne pense pas qu'on puisse prendre ceci de façon très, trop littérale, vraiment. La sélection naturelle nous dit que vous réussissez si vous avez une descendance. Donc il faut attendre la descendance du cyberpunk pour savoir.
Ça, c'est une bonne remarque. On va prendre encore deux questions, puisqu'il y a une demande à droite là-bas. Oui.
Moi, ce qui me chagrinait, c'est que le darwinisme, c'est la sélection par l'extinction des inaptes. Et ça fait un peu le... C'est du pain béni pour le capitalisme industriel qui s'est développé en même temps et qui a peut-être contribué à l'acceptation de cette idéologie. Quoi. Premier point. Donc, ce qui me rassure, c'est que monsieur le généticien dit que la marque reprend du poil de la bête. C'est-à-dire que ce n'est plus seulement des micro-extinctions, mais l'espèce, l'individu en lui-même s'adapte et mute sans pour cela passer par la destruction des individus les plus faibles. Et j'aimerais savoir si actuellement on arrive à comprendre ce mécanisme de mutation en fonction de l'environnement.
Bon, alors, il y a deux choses dans votre question. D'une part, il y a la notion d'extinction et de préférence du plus apte. C'est pas tout à fait comme ça que ça se passe. Tout est fonction du nombre de descendants de la génération suivante. C'est comme ça que ça s'exprime. Donc ça veut dire que les individus qui auront la descendance la plus adaptée seront un peu plus nombreux et progressivement finiront par prendre le dessus sur la société en question. Mais là, on parle de société animale, on ne parle pas de société humaine. C'est pour ça qu'il y a une chose qui me dérange, aussi bien dans votre question que dans celle du monsieur précédent, c'est qu'on veut appliquer le darwinisme à l'humanité, mais c'est pas ça qu'il faut faire. Aujourd'hui, l'homme, il est complètement en dehors de ce genre de... Est-ce que vous comprenez? Sans ça, l'histoire de Lamarck, je l'ai donnée comme...
Comme
histoire de titiller pour
oui,
dire qu'aujourd'hui, quand on va au fin fond de la molécule... On peut se rendre compte de choses qui peuvent, quelque part, donner un petit peu raison à ce qu'on appelle l'hérédité des caractères acquis. Ça veut dire que dans certains types d'environnement, certains gènes vont se retrouver éteints, et dans la descendance de ces gens-là, les mêmes gènes seront éteints, alors que l'ADN n'aura pas été modifié, parce que cet ADN aura conservé sa méthylation qui empêche l'ADN en question de s'exprimer. Et donc, dans la génération suivante, il reviendra.
Actuellement, vous considérez que le darwinisme répond à toutes les questions. Il n'y a pas de faille dans le darwinisme. Ça convient complètement. Quoi.
Comme explication de l'évolution, pour l'instant, il n'y a pas mieux.
Et d'autre part, vous dites que maintenant, c'est l'humain qui prend le relais de la nature, mais je ne suis pas complètement d'accord, puisque même si... On joue énormément sur l'écosystème, sur l'ensemble du vivant. Ça ne nous empêchera pas de continuer d'évoluer. Par exemple, notre petit orteil de pied, on peut imaginer qu'il va finir par disparaître ou qu'il y a de plus en plus de gens qui n'ont plus de dents de sagesse. Enfin, il me semble. Je veux dire, ça, c'est pas des choses qu'on maîtrise. Donc,
bien sûr, mais
le mécanisme continue à exister sans nous, quoi.
Oui, mais c'est dans un cycle de temps qu'on n'est pas capable de percevoir. C'est-à-dire que peut-être que ça, que dans 10 ou 15 ou 20 ou 50 générations, il y aura beaucoup plus de gens qui n'auront pas de dernier orteil au doigt de pied, si c'est ça votre exemple, ou de dernière dent de sagesse. Mais... Aujourd'hui, on est là, tous là, et c'est ça qui compte. Autrement dit, le darwinisme, ça nous concerne que de façon historique, ça nous concerne comme explication du monde et de l'évolution jusqu'à aujourd'hui. Mais ça ne nous sert à rien comme projection de quelque chose qu'on ne verra jamais. Là, je rejoins Pierre. Je veux dire, c'est... Bon. Non, vos enfants auront toujours un petit doigt de pied.
Ouais. On va prendre une dernière question maintenant, parce que les... Les personnes voulaient poser leurs questions depuis un moment, donc on va pas les laisser en plan.
Merci. Ce serait une question pour Monsieur Bordage. Vous avez dit que si la matière existait d'elle-même, vous ne voyez pas à quoi vous serviez. Et donc moi je me disais, pourquoi l'être humain devrait nécessairement avoir un rôle?
Pourquoi est-ce que l'être humain rend nécessairement un rôle?
Oui.
Parce que je suis un être humain.
Mais...
et que... au-delà du fait que je suis un être humain, ce qui m'intéresse, moi, je sais pas, je peux me planter peut-être complètement, ce que j'explore, c'est peut-être des voies qui sont sans issue, ça n'a pas vraiment d'importance, mon temps est court, si en plus c'est le hasard et la nécessité, c'est vraiment pas grave. Donc ce qui m'intéresse, c'est de chercher d'autres issues, d'autres voies. Et encore une fois, la voie que je cherche, c'est celle de la co-création. Donc c'est une forme de créationnisme, je suis d'accord. C'est-à-dire, mais pas du créationnisme daté ni quoi que ce soit, mais une forme d'interaction entre la conscience humaine, encore une fois parce que les humains ont une conscience, que c'est la seule espèce pour l'instant qui est ça, l'interaction entre la conscience et la matière. Ça, ça m'intéresse beaucoup, parce que pour le reste, ok, alors si c'est démonté, le mécano est parfait, ou à quelques exceptions près, je veux dire, il y a des sauts, par exemple, évolutifs qu'on ne s'explique pas très bien, ou ce genre de choses, bon... Le mécanisme, pour l'instant, il tient la route, comme la théorie de la relativité d'Einstein tient la route. Mais il se trouve que probablement, dans certaines circonstances, ce n'est plus tout à fait la même chose. Sur la physique quantique, par exemple, on dit bon, voilà, le principe de certitude s'efface. Et c'est ça qui est intéressant. D'un seul coup, il n'y a plus de certitude sur rien. Donc, si on veut se laisser enfermer, alors je reparle le mot de l'impasse, et ça, c'était pour répondre à la question. Si on se laisse enfermer dans un système de pensée, oui, on est dans une impasse, parce qu'on va tout expliquer par ça. Ok, c'est un système de pensée. Voilà, ça marche comme ça. Mais moi, ça ne m'intéresse pas. C'est comme si j'étais dans une prison. Ce système, c'est ma prison. Et je voudrais sortir de ça en me disant, mais peut-être qu'il y a d'autres choses à chercher, d'autres voies à explorer. Et c'est, à mon avis, c'est la voie des mystiques et des savants, finalement, enfin des chercheurs qui essayent de sortir des sentiers battus, de la même façon que les mystiques sont toujours sortis des sentiers battus de la religion. Parce que ce qu'ils recherchent finalement, c'est une extrême liberté intérieure, c'est-à-dire sortir de tous les conditionnements et toutes les prisons. Et peut-être qu'à ce moment-là, tout change. Voilà, moi, j'aimerais même me mettre dans la position où tout change. Mais encore une fois, j'en sais rien. C'est juste ce que m'incite à faire mon être profond, en quelque sorte.
On va passer la parole.
Ça répond à votre question ou...
On va passer la parole succinctement, je pense, à David qui veut intervenir.
Oui, oui, très rapidement. Peut-être est-ce que l'on doit considérer le darwinisme comme le premier jet d'un nouveau roman, peut-être, hein? Et ça ne répond pas à toutes les questions, bien sûr, que l'on peut se poser. Il y a des zones que l'on peut questionner, mais c'est la meilleure chose que l'on ait jusqu'à aujourd'hui, jusqu'à ce que quelque chose de plus subtil apparaisse, peut-être.
En tout cas, je vous remercie beaucoup. Je pense qu'on peut les applaudir. Puis... On va également remercier le traducteur qui fait toujours un boulot important. Merci pour lui. Maintenant, je vous invite, il y aura peut-être des dédicaces à suivre, je ne sais pas trop, ça m'étonnerait. Je vous invite à rester ici parce qu'il y a... vous verrez nos auteurs de toute façon dès demain matin, rassurez-vous. Les remises des prix, le Grand Prix de l'Imaginaire qui sera suivi du prix Julia Verlanger. Je pense que ça vaut le coup de rester. Et la pièce de théâtre. Empreinte en salle 400, nous annonce Pierre Bordage. Eh bien, je vous remercie beaucoup.